Chapitre 32. Les Saints-Pères. Rien de plus désolant au monde pour un prêtre sérieux que l'étude des Saints-Pères. À peine a-t-il fait un pas dans le labyrinthe de leurs discussions pleines d'aigreur et d'amertume qu'il voit tous ses beaux rêves d'unité et d'orthodoxie s'envoler comme les blanches vapeurs du matin devant les chauds rayons du soleil levant. Lié par un terrible serment de n'interpréter l'Écriture sainte que d'après le consentement unanime des Saints-Pères, la première chose qui l'embarrasse et le désole est leur manque absolu d'unité sur presque tous les sujets qu'ils discutent. Le fait est que le principal soin de chaque père est de prouver que son voisin se trompe et est hérétique dans la plupart de ses vues religieuses. Le lecteur voit presque à chaque page que non seulement ils ne s'entendent pas les uns les autres, mais qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec eux-mêmes. Rien n'est plus commun que d'entendre un père nous dire aujourd'hui qu'il se trompait hier sur telle et telle question et maintenant qu'il regarde comme très orthodoxe ce qui lui semblait une erreur la veille. En face d'un pareil fait, que devient le serment de ne croire parmi les textes de l'Évangile que ceux sur lesquels les saints-pères ont un même sentiment ? Ce serait un livre palpitant d'intérêt que j'écrirais si je voulais décrire les luttes intérieures, les heures et les jours de désolation dont Dieu seul a été le témoin pendant cette époque de transformation intellectuelle. Les débats passionnés des saints-pères, les uns contre les autres, les coups acharnés qu'ils se portaient, l'opposition directe, l'horreur même d'un grand nombre pour quelques-uns des dogmes que mon Église me faisait prêcher comme vérité évangélique, tels que la transsubstantiation, le purgatoire, la confession auriculaire, la suprématie du pape, ces choses me bouleversaient jusqu'au fond de l'âme, me torturaient jour et nuit. La comparaison que je faisais sans cesse des enseignements de l'Évangile et des saints-pères avec ceux de mon Église ébranlait malgré moi mes plus chères convictions religieuses. Jamais je ne trouverai de paroles pour exprimer ma douleur lorsque je lus les paroles suivantes dans le fameux traité de la foi de saint Augustin 9:9. Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ? Jean 2:4. Jésus nous apprend par ses paroles que quant à sa divinité, il ne reconnaissait point de mère. C'était le plus savant comme le plus saint et le plus vénérable des saints-pères qui me disait que mon Église blasphémait chaque fois qu'elle faisait répéter cette prière « Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». Je ne fus pas moins surpris et consterné lorsque je lus la déclaration suivante faite par un des plus savants et des plus pieux papes de Rome, Grégoire le Grand, au VIe siècle de l'Église. Ces paroles qui démolissaient sans pitié ma croyance dans la suprématie universelle du pape sur le reste des évêques me blessèrent comme par une épée à deux tranchants. Je dis sans crainte que quiconque ose s'appeler évêque universel, souverain pontife, ou désire dans son orgueil que d'autres lui donnent ce titre, est le précurseur de l'antéchrist parce que dans sa vanité, il se met au-dessus des autres. Son orgueil seul peut le conduire dans cette erreur satanique. Car comme le méchant veut se mettre au-dessus des hommes, comme l'égal de Dieu, il en est ainsi de quiconque veut être appelé le suprême évêque en s'élevant au-dessus des autres. Livre 7, introduction à l'épître 33 à l'empereur Mauritius. Je montrai ces lignes à M. Brassard en lui disant « N'est-ce pas une preuve que les premiers chrétiens ne connaissaient rien du dogme qui nous force à croire que Jésus-Christ a mis le pape au-dessus de tous les évêques ? S'il y a une chose qui devient plus évidente que toutes les autres, lorsqu'on étudie les saints-pères des six premiers siècles, c'est que pas un n'avait l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la souveraineté et absolue autorité de l'évêque de Rome sur toute l'Église. Quand on est convaincu de ce fait, comment peut-on croire que la religion que nous professons soit celle des premiers siècles du christianisme ?« Mon cher Chiniki, me répondit M. Brassard, rappelle-toi ce que je t'ai dit lorsque tu fis venir les saints-pères de France. Ne t'ai-je pas averti que tu te rendais coupable d'une grande imprudence et que tu jouais ton avenir ? Durant tous les siècles, l'homme qui a voulu se singulariser n'y a réussi qu'en se couvrant de ridicule. Tu es le seul prêtre du Canada qui possède les saints-pères. Et cette singularité t'a fait plus de mal que tu ne le penses. On croit en plus d'un lieu et on se dit tout bas à l'oreille, en attendant qu'on le dise bientôt tout haut, que c'est par une pure vanité que tu as fait cette folie et que c'est dans le dessein de t'élever au-dessus du reste du clergé que tu te livres à ces études, soit à la maison, soit partout où tu vas prêcher. Je vois avec peine que ces saints-pères sont cause que tu perds rapidement l'estime du clergé et surtout des évêques. Ta persévérance dans cette étude inquiète et afflige tes amis. tu parles trop ouvertement de ce que tu appelles le manque d'unité des saints-pères et tu fais sonner trop haut leur divergence d'opinion avec nos croyances d'aujourd'hui. Plus d'un de tes amis craint que ces études sans relâche n'affaiblissent ton intelligence. D'autres ont peur que tes études de la Bible et des saints-pères, tout à la fois, ne te fassent tomber dans l'abîme sans fond de l'hérésie et que tu ne deviennes un coryphée du protestantisme. Tu comprends que je ne partage pas ces craintes et je combats ces vaines frayeurs. Mais, comme ton meilleur ami, j'ai cru devoir te prévenir de ces choses dont probablement tu ne te doutes guère. Monseigneur Prince, lui répondis-je, m'a déjà dit toutes ces choses en termes bien plus amers que vous. Et voici la réponse que je lui ai faite. Monseigneur, lorsque vous ordonnez un prêtre, vous l'obligez à faire serment qu'il n'interprétera l'Évangile que d'après le consentement unanime des saints-pères. Ne devriez-vous pas en même temps exiger de lui le serment de lire et d'étudier les saints-pères avec le plus grand soin? Car comment pourra-t-il, sans cette étude, savoir sur quel texte des saintes écritures ils sont d'accord ou non? N'est-ce pas bien étrange que vous écrasiez tous vos soupçons, le seul prêtre du Canada qui se livre à cette étude, comme si les saints-pères étaient des hérétiques dont il faut éviter la compagnie? Vous me regardez presque comme un protestant parce que je répète naïvement ce que les saints-pères ont dit sur quelques-uns des sujets religieux qui ont le plus occupé la pensée des hommes dans tous les siècles du christianisme. Mais est-ce ma faute si cette pierre précieuse que vous appelez « consentement unanime des saints-pères » est impossible à trouver dans leurs écrits? Est-ce ma faute, par exemple, si saint Cyprien a nié jusqu'à sa mort la suprême autorité des évêques de Rome dans l'Église? Si saint Augustin a dit positivement que le purgatoire n'était pas un dogme de l'Église et que chacun pouvait y croire ou le nier comme bon lui semblait? Si saint Jean Chrysostome ainsi que saint Ignace ont nié l'obligation de la confession auriculaire? Enfin, est-ce ma faute, Monseigneur, si un des plus grands et des plus saints papes de notre Église, saint Grégoire le Grand, a positivement appelé tous ses successeurs de la papauté précurseurs de l'Antéchrist parce qu'ils prennent le titre de souverain pontife qu'ils se disent appelés par Jésus-Christ à gouverner les évêques? Et que t'a répondu l'évêque? Rien de sérieux. Il me parla du danger que je courais de devenir fou si je continuais à me livrer à ses études. Je l'interrompis en lui disant, sur un ton de badinage, que j'étais sans doute le seul prêtre dans tout le Canada qui fût exposé à un pareil danger, vu que tous ont grand soin de se tenir éloignés de ces deux écueils si redoutables pour leur intelligence et pour leur piété, la Bible et les saints-pères. Je resterai catholique, ai-je continué, non pas à cause de l'unanimité des saints-pères sur toutes les vérités de l'Évangile, car cette unanimité n'est qu'une chimère, mais à cause de la grande et admirable unité qui règne entre les prophètes, les apôtres, les évangélistes et Jésus-Christ. Ma foi ne sera pas fondée sur la parole faillible, obscure, vacillante et souvent menteuse d'un Origène, d'un Tertullien, d'un Chrysostome, d'un Augustin ou d'un Jérôme, mais elle sera fondée sur la parole lumineuse, évidente, infaillible et divine de Jésus et de ses saints ambassadeurs, dont il a dirigé la pensée et conduit la plume dans tout ce qu'ils ont écrit. C'est Jésus, fils de David et fils de Dieu, et non Origène ou Tertullien, qui conduira mes pensées et guidera tous mes pas. Car ceux-ci ne sont que des pécheurs comme moi, mais Jésus est mon sauveur et mon Dieu. J'en sais assez sur les saints-pères pour assurer votre grandeur que le serment que nous faisons de ne croire de l'Écriture sainte que les versets sur lesquels les saints-pères sont parfaitement unanimes est une méprise, sinon un blasphème et un parjure. Il est évident que Pie IV, qui nous a imposé ce serment, n'avait jamais lu un seul volume des saints-pères, car s'il l'avait fait, il aurait vu qu'ils ne sont, à peu d'exceptions près, unanimes que sur une seule chose, qui est de se contredire dans presque tout ce qu'ils ont écrit. L'évêque regarda sa montre et me pria de l'excuser, vu qu'il avait à cette même heure un rendez-vous inévitable. Peu de temps après cette conversation avec M. Brassard, la providence de Dieu voulut qu'un nouveau dard déchira plus profondément encore le lambeau de religion et de foi dont l'Église de Rome m'avait elle-même revêtu.